C'est moi, c'est Lola. Celle qui dit v'là un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots.
Personnage en personne par Charles Danzig. Je n'ai jamais aimé qu'on me raconte des histoires. Les histoires dans le sens d'aventures, de courses à cheval, de bagarres, de duels, de batailles, de chausse-trappes et autres sauts d'obstacles me paraissent transformer les êtres en chevaux de concours. Les histoires qui ne sont que des histoires représentent pour moi une continuation des jeux d'enfants. Et aux enfants, on raconte des histoires pour les endormir. Un des plus grands raconteurs d'histoires et abuseurs de confiance de l'histoire contemporaine, le cinéma hollywoodien, y parvient à merveille avec les adultes. Je n'ai jamais aimé les histoires, je n'aime que les gens. Ceux que dans la vie on appelle personne, et dans les fictions, personnage. Un personnage n'est pas une personne. Voilà l'idée la plus simplement importante qu'il me semble devoir énoncer au début de cette nouvelle émission. Secret professionnel a duré 6 saisons, de 2011 à 2017. Je ne m'y suis jamais interdit de parler de littérature et d'œuvres de création, loin de là, j'en parlerai encore plus dans Personnage en personne. Il sera question, à chaque émission, d'un personnage de fiction, avec l'aide de celle qui m'accompagne depuis les débuts de Secret professionnel et réalisera encore Personnage en personne, l'archéologue de génie des archives sonores, la réalisatrice d'un talent pas du tout fictif, Clotilde Pivin. Une des formes de compréhension du monde les plus intelligentes est la fiction. Quand on lit une fiction, on sait que ça n'est pas vrai. Je dis vrai avec tous les guillemets possibles, car la vérité est une notion terroriste dès qu'il s'agit d'art, et même de quoi que ce soit d'autre. On sait qu'une fiction ne se passe pas comme dans la vie matérielle, mais qu'elle est concentrée, dilatée, grossie, amenuisée, dans tous les cas déformée, et si elle l'est, c'est parce que la fiction est une symbolisation du monde. Un personnage n'est pas le décalque d'une personne. Et c'est bien pour ça qu'il peut nous apprendre quelque chose. Les personnes sont opaques et ne nous découvrent jamais rien de nous-mêmes. Une personne décrite reste une personne, une autre. Un personnage n'est pas une même chose, mais il est pourtant insemblable. Une biographie de Napoléon ne nous révèle rien de nous-mêmes. Madame Bovary peut révéler, même à un homme, même du XXIe siècle, quelque chose, disons, de son mécontentement de la vie. Madame Bovary, c'est le lecteur.
Monsieur et Madame Bovary.
Madame, Monsieur.
Monsieur Frédéric Moreau.
Attention de ne pas chiffonner.
Tu es contente. Mes soupirs vont me gêner pour danser.
On sait. Mais on se moquerait de toi. Ce n'est pas qu'on a pour un médecin. Regardez le champagne.
Je vais t'en chercher.
Que gentil.
Castellane, Bovary.
Lors d'une conférence de William Faulkner à l'Université de Virginie, un étudiant lui pose la question suivante à propos de ses romans. « Monsieur, dans quelle mesure essayez-vous de décrire la civilisation du Sud ?» Et Faulkner de répondre « Non, j'ai essayé de parler de gens en utilisant le seul outil à ma disposition, la région que je connais. La fiction, ce sont des gens. » Souvent, des romans sont mauvais parce que leurs auteurs imposent des aventures à leurs personnages. Il y aurait Elena, elle serait comme ceci, il lui arriverait cela, et si elle faisait ceci ? Dans un bon roman, les événements sont la conséquence des personnages. Comme dans la vie, somme toute. Le public de ces romanciers est resté comme eux à une conception du roman comme tragédie. Il y a un destin. Ça rassure les personnes que les personnages aient un destin. Elles croient pouvoir en avoir un. En réalité, il n'y a pas d'action. Il n'y a que la découverte de personnages, de leur vie, des interactions des uns sur les autres. Une parole, un geste peuvent avoir des conséquences plus graves qu'une bataille, ou tout au plus, on se casse de bras et on reste comme avant. Un roman, un film, c'est le récit de la modification des personnages. La fiction est l'élucidation d'un mystère, celui d'un homme ou d'une femme, d'un personnage. Dans la vie, les personnes paraissent toujours simples, parce qu'elles ne montrent qu'un aspect aux autres, un caractère simplifié qui les arrange et nous arrange aussi. C'est une fois qu'elles sont mortes et que la politesse ou la nécessité de dissimulation sont tombées, que les personnes se compliquent. Eh bien, un personnage, c'est comme un mort. un mort qu'on comprendrait. Quelqu'un d'épais, de varié, de moiré, qu'un auteur tourne, éclaire, rend au moins en partie compréhensible. Pourquoi devrait-on tout savoir d'un personnage ? Je me méfie des créateurs qui savent tout des leurs. Ils leur imposent plutôt une personnalité qu'ils ne la découvrent. L'imagination ne consiste pas à plaquer des mécanismes, mais à deviner quels sont les comportements les plus probables en fonction d'une situation de départ donnée. L'imagination est un mode de raisonnement déductif. Les personnages des romanciers sans imagination sont pareils à des poupées auxquelles ils mettraient des panoplies, et elles ne nous disent rien sur nous-mêmes. Et ces gens ordinaires n'existent évidemment pas, eux qui sont invités dans des émissions scénarisées et donc fictives. Il ne s'agit pas davantage de montrer un destin qui n'existe pas que la réalité qui n'est souvent que l'autre nom du sordide. Certaines personnes sont si sommaires qu'elles peuvent être réduites à un seul qualificatif et voilà toute leur biographie. Un homme que je connais pourrait par exemple être défini par le mot « intempestif ». Chaque fois qu'il intervient dans la vie de quelqu'un, c'est de manière intempestive. Il dit quelque chose de non seulement maladroit, mais de désagréable. Et voilà, il est une seule chose. Il pourrait être un personnage de théâtre de marionnettes, mais pas plus. Les autres sont les personnages de romans ou de films. Ils ne sont jamais sommaires, puisqu'il faut 200 ou 300 pages pour les décrire.
Proust possédait le théâtrophone. C'est un appareil qui doit être incompréhensible aujourd'hui. C'était une radio avant la lettre. Une sorte de monstre, de pieuvre, formé de tuyaux acoustiques, et on y entendait l'opéra et l'opéra comique. Il écoutait souvent Péléas. Et un jour, il me dit, j'ai eu une grosse crise hier parce que j'ai écouté Péléas. J'ai eu cette crise au moment où le vent du printemps passe. Il me disait, je vais essayer de vous imiter sa voix. Oh, mon cher Jean, j'ai eu une grosse crise au moment où le vent du printemps passe sur la mer. Il parlait, comme je viens de vous l'imiter, en barbouillant de sa main sa voix sur son visage et dans sa barbe.
On ne les crée d'ailleurs pas en ne faisant qu'ajouter des éléments à des personnes de la vie qui serviraient de modèle. Il n'y a pas de modèle, puisque les personnes sont ou trop simples ou trop dissimulées. Tolstoï a dit d'un de ses personnages de Guerre et Paix, « André Bolkonski, comme tout personnage de roman, n'est personne ». Je me trompe. Certaines personnes sont si pleines, si exagérées, qu'on ne pourrait pas les reproduire telles quelles dans une fiction. Un exemple que je connais bien est celui d'un personnage que j'ai décrit, celui du député Furness dans mon roman « Histoire de l'amour et de la haine ». Ceux qui ne l'ont pas aimé l'ont qualifié de caricature. On appelle souvent caricature le miroir qui ne nous flatte pas. De plus, qu'y aurait-il de mal dans une caricature ? Une caricature, c'est une manière comique de mettre en lumière un défaut. Ce n'est pas ce que j'ai cherché dans ce livre. Ce que j'ai cherché, c'était être exact. Et je n'ai pu l'être qu'en évitant précisément la caricature. Elle aurait consisté à recopier ce qu'avaient dit ou fait les Boutin, Van Est, Copé, Jacob, Mariton et autres brutes méchants ou retors. Et mon député Furness, familialiste, traditionnaliste, moraliste, divorcé qui consomme des escort girls, boit et maltraite son fils, n'a pu être créé qu'en enlevant des défauts de personne. Les donneurs de leçons sont les pires des personnes pour créer des personnages. Ils donnent aux autres des leçons qu'ils devraient se donner à eux-mêmes et le font d'autant plus péremptoirement qu'ils pratiquent plus de vices. On ne pourrait pas faire un personnage d'un cardinal du Vatican d'extrême droite car on serait obligé d'en montrer trop les orgies, la pédophilie et la drogue, comme on l'a découvert par un petit scandale au mois de juillet dernier. Il y a des personnages de construction qui sont faits d'ajouts et de suppressions à partir de plusieurs personnes utilisées comme des couleurs sur une palette et des personnages de pure imagination. Aucun des personnages de mon roman de Viative, par exemple, n'a été écrit à partir de personne, comme aucun personnage d'un film d'amour, à l'exception du personnage principal, Birbillaz, pour quelques éléments physiques, ses cheveux en particulier, que je me rappelle avoir pris d'un client de restaurant qui dînait un soir à une table voisine de la mienne. D'autres personnages sont faits de degrés d'éloignement successifs de la réalité. Un des personnages de l'histoire de l'amour et de la haine, au fait, je ne donne d'exemple tiré de mes livres que parce que je suis sûr de ce que j'ai fait, alors que je ne pourrais que spéculer à propos d'autres romanciers. Ce personnage, donc, était très proche d'une certaine personne de la vie. Ça n'allait pas.
« Monique Berger, vous avez vu un film au titre très insolite, c'est le moins qu'on puisse dire, je vous le laisse dire.
Il s'appelle James Bond 007 contre Dr. No. C'est un film anglais, policier, vous vous en doutez, avec un tel titre, de Terence Young, d'après le livre de Ian Fleming. James Bond, donc, agent doublement secret et même triplement, et portant avec lui et avec son arme la permission de tuer, va enquêter dans les Caraïbes sur la mort d'un autre agent secret. Il se trouve aux prises avec la très redoutable organisation du Dr. No, qui a transporté dans une île un repère d'espionnage atomique. Je ne sais si dans l'esprit de son réalisateur britannique, le public doit prendre cette histoire au sérieux. À vrai dire, je ne le crois pas. Pour ma part, et j'espère qu'il s'agit d'un pastiche de films policiers, réalisé du reste avec de très grands moyens d'imagination et de grands moyens financiers aussi. Personne vraiment, nous, ne peut croire à cette histoire, qui se déroule pourtant selon les règles d'un mécanisme rigoureux. Cette histoire est délirante et ses rebondissements sont si inattendus qu'ils enchantent le public. James Bond, Sean Connery, le nouveau héros, l'agent 007, est un grand gaillard écossais, solide, grand et mince. C'est un athlète d'une très remarquable souplesse, d'un flegme à toute épreuve et d'une séduction incomparable, ou du moins se croyant-elle, ce qui revient évidemment au même et pour ses partenaires dans le film et pour le public dans la salle.
Il ne s'adaptait pas aux autres personnages avec son poids, sa densité, son unicité de personne. Un roman, c'est un ballet. Les personnages ne doivent pas s'écraser, s'exclure, se nuire par des disproportions. Et j'ai passé version après version de mon livre à éloigner mon personnage de la personne, non seulement pour la nécessité du ballet, mais pour lui-même. Telle chose nouvelle qu'il faisait, tel comportement nouveau qu'il avait, nécessité de changer autre chose. La création de personnages s'apparente à la fois à la peinture, au poids et mesure et au moulurage. Say it's true. They got a message from the action man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shrieking of nothing is killing. Just pictures of Jeff girls in synthesis. And I ain't got no money. And I ain't got no hands. But I'm hoping to kick, but the planet is glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom. Je me méfie de la psychologie. La psychologie finit souvent en manipulation de marionnettes au même titre que les aventures. Un romancier exclusivement psychologue applique une grille préétablie et a toujours raison. Quel ennui! Voilà pourquoi aucun roman purement psychanalytique n'a pu exister, pas plus qu'aucun roman médical ou mystique. Les personnages que je préfère sont là, simplement, comme on est dans la vie. Ils font ce qu'ils font et sont finalement plus complexes que ceux qui peuvent être réduits à un mécanisme psychologique. Au moment où Proust fait de l'analyse dans « Albertine disparue », il devient moins bon. Eh, il a réinventé de l'extérieur une chose qui ne lui était pas arrivée dans la vie, d'être abandonné par une femme. Non qu'il n'ait pas pu l'imaginer, mais il a eu du mal à le ressentir parce qu'il n'avait pas non plus été abandonné par un homme. Et il ne pouvait raconter la douleur en changeant de genre, il est donc parti de l'arrivée pour revenir en arrière, d'où ce sentiment d'assister à un cours assez fastidieux. Le lecteur d'Albertine disparue est comme des enfants qui doivent tendre les avant-bras pour que leur grand-mère y réembobine son fil de laine. Un personnage n'a pas besoin d'être présent pour exister. Dans un film d'amour, j'ai écrit un roman dont on ne voit pas le personnage principal. Samuel Beckett a créé des personnages qui veulent partir et restent sur place. Vladimir Nabokov, dans La vraie vie de Sebastian Knight, a inventé un personnage qui ne cesse de dissimuler et de mentir. Dans Le meurtre de Roger Ackroyd, Agatha Christie a inventé le jeu qui triche du début à la fin. Roger Ackroyd, le narrateur de l'histoire, est l'assassin. Et ces personnages nous montrent qu'il vaut mieux se méfier de ce qu'un romancier nous dit, qu'on ne part peut-être jamais, même quand on part, et qu'on est bien vaniteux de penser qu'on a de l'importance.
En effet. Et vous avez, je crois, beaucoup connu Marcel Proust.
Beaucoup, non. Mais très bien, oui.
Oui, parce qu'en effet, il était difficile, je pense, de le connaître beaucoup. Il était très fuyant, n'est-ce pas?
Très difficile et très compliqué.
Et comment était-il?
Eh bien, quand on le voyait, on avait l'impression d'un être fascinant et qui ne semblait pas appartenir à l'humanité ordinaire. Il possédait ce qu'il appelait lui-même un sixième sens, ce qui lui permettait ses investigations inouïes avec l'aide de la mémoire involontaire, la seule, disait-il, qui vraiment avait de l'importance. Et avec elle, il atteint un état extra-temporel et il sent dans les profondeurs de son être où la seule intelligence n'a pas de prise.
Et puis-je vous demander s'il était snob? Car la tradition voulait toujours, enfin, que Proust fût snob.
Eh bien, écoutez, c'est comme si vous demandiez si Degas était débauché parce qu'il aimait surtout dessiner des ballerines, ou s'il était joueur parce qu'il aimait surtout les champs de course et regarder les jockeys,
oui,
et puis les chevaux. Il n'était pas snob, mais il se plaisait particulièrement dans cette région, dans ce public spécial qui existait il y a pas bien longtemps. Et
oui,
là, il était un enfant chéri, choyé, il s'y plaisait, c'était en somme son champ d'observation.
C'est ça, donc ce n'était pas parce qu'il était snob qu'il allait dans le monde, mais parce que le monde lui offrait un champ d'observation qui a fait justement la matière de son œuvre.
Absolument.
Un des plaisirs du romancier consiste à inventer des personnages passionnés par des choses dont lui-même se désintéresse. Quand Malraux, dans ses entretiens avec Roger Stéphane, dit qu'il ne comprend pas que Proust ait pu passer autant de temps avec des personnages snobs ou imbéciles parce qu'on en rencontre assez dans la vie, révèle en fait pourquoi il n'était pas un très bon romancier. On n'écrit pas pour démontrer des personnages moralement admirables. La fiction est le contraire de la vision. Dans la fiction, le lointain est clair, le proche est flou. De loin, un romancier sait tout de ses personnages, ah ça, ce qu'ils sont, ou plutôt ce qu'ils doivent être. Et de près, il doit leur donner des contours, c'est-à-dire fuir le stéréotype. Il le fait en leur donnant ce qu'on appelle des contradictions, et qu'on appelle ainsi que par idéologie de la perfection. Il n'y a pas de contradiction, il y a la vie. L'homme est un composé de multiples sensations et d'idées qui le font agir de différentes manières. Certains hommes décident d'avoir une direction principale. Ce sont ceux qui éliminent le plus de sensations et d'idées, devenant accessoires. Ce que les mauvais écrivains n'ont jamais compris, c'est que les dialogues dans les romans, les dialogues des personnages, ne servent pas à se répondre. Les dialogues ne sont pas des raisonnements. Le raisonnement a eu lieu et le roman propose au-delà. Même quand il y a une question, le personnage ne répond pas, n'objecte pas. Les dialogues, c'est une succession de monologues. C'est cette danse disharmonieuse qui forme le meilleur des dialogues des romans. Les dialogues de leurs personnages sont une indication de couleur, au même titre qu'un geste ou qu'une intonation. C'est merveilleux comme les personnages se mordent les lèvres chez les romanciers de peu de talent. Ils s'affalent dans des fauteuils aussi. Stéréotypie du geste et exagération du vocabulaire, voilà les cannes anglaises de l'absence d'imagination et du désir de style. Je ne connais pas de meilleure définition de la vulgarité en littérature que cette façon d'écrire qui est une conséquence de l'absence totale de pensée. Le personnage n'est pas une personne, mais l'aide à comprendre qui elle est. Et la personne que nous comprenons à la fin le mieux, c'est l'auteur. Quand Balzac, dans son fameux passage sur le roman qui fait concurrence à l'état civil, dit, avec sa prétention naïve, que ceci est plus intéressant que, je cite, « de mettre en ordre les faits à peu près les mêmes chez toutes les nations », de rechercher l'esprit des lois tombées en désuétude, faisant un croque-en-jambe à Montesquieu qui n'en demandait pas tant. Quand Balzac, dis-je, ajoute que ces personnages ne vivent qu'à la condition d'être une grande image du présent, il se révèle, lui, Balzac. Il a l'idée que les personnages de fiction doivent montrer ce qu'il appelle ailleurs l'envers de l'histoire contemporaine. Ça n'est ni vrai ni faux, c'est Balzac. Balzac, dont tous les personnages sont des détectives privés ayant pour mission de prouver que le coupable, c'est la Révolution. De même, quand Zola énonce les deux éléments selon lui caractéristiques des personnages, c'est Zola qui l'éclaire, avec son idée que le roman est scientifique, sa manie de l'hérédité et son obsession du détraquement. Je cite encore. « Premièrement, l'élément purement humain, l'élément physiologique, l'étude scientifique d'une famille avec les enchaînements et les fatalités de la descendance. Deuxièmement, l'effet du moment moderne sur cette famille, son détraquement par les fièvres de l'époque, action sociale et physique du milieu. Et voilà tous les Rougon-Macquart et Zola indissociablement liés. Le principal personnage, c'est le romancier. »
Faut savoir s'étendre sans se répandre, pauvre Lola. Faut savoir s'étendre sans se répandre, c'est délicat. Ne pas la surprendre, pas l'entreprendre, pauvre Lola. Ne pas la surprendre, pas l'entreprendre, de but en bas.
Les personnages de fiction existent de façon immatérielle, ce qui n'est pas moins existé que l'existence matérielle des personnes. Ils existent parce qu'ils sont lus, lus par le lecteur qui leur apporte sa passion. Lisant, ils les prennent dans leurs bras, ils dansent. Et l'auteur est là, entière, lu en même temps que le personnage est lu. Dans un livre, on lit peut-être moins l'histoire que l'auteur. Une longue idée qui a régné au théâtre est celle exprimée par Racine dans sa préface à Bajazet. Le respect que l'on a pour les héros augmente à mesure qu'ils s'éloignent de nous. Le personnage de théâtre tenait sa qualité de l'éloignement, alors que les personnages de roman tiennent la leur du rapprochement. Et voilà pourquoi, en ces temps de royauté, de cour et d'étiquette, le roman était considéré comme vulgaire et le théâtre noble. Racine, après Rotrou et bien d'autres, tout ça allait passer avec la Révolution, perpétuait la conception des tragiques grecs. Le personnage de théâtre comme héros a pourtant été contesté dès la Grèce par Aristophane, ce vieux compimpant qui ricanait de tout, à commencer par l'idéal. On ne fait pas un personnage avec de l'idéal car il devient moral, mais on ne le fait pas davantage avec du ricanement car il devient immoral et donc respectueux de l'idéal puisqu'il s'y réfère. Au demeurant, Racine a créé des personnages beaucoup moins moraux que Corneille, lesquels, tout d'une pièce, sont plus des coups de massue que des personnages. Ceux de Racine sont souples, moirés, blessés, blessants, inattendus.
Encore une journée divine. Mon Dieu, mon Père, Jésus-Christ, Amen. Siècle des siècles, Amen. Commence, Winnie. Commence ta journée, Winnie.
Elle se tourne vers le sac, en sort une brosse à dents, un tube de dentifrice aplati.
Pauvre Willy.
Beckett, bien des années plus tard, a réussi à créer des personnages qui ne soient ni des héros, ni des anti-héros, mais des gens. Des gens qui parlent, qui traînent la patte et qui, dans leur indistinction apparente, sont tout aussi mémorables que les Rodrigues ou les Rodomont. Dans « Oh les beaux jours », Winnie est un personnage privé du pittoresque et des colifichets dont, par insécurité peut-être, tant d'auteurs parlent leurs gitans de personnages. Et, l'air de ressembler le plus à une personne, elle est en réalité plus purement héroïque que les pantins de Corneille. Héroïque ne veut alors plus dire qu'il y a une valeur morale, mais une valeur de stylisation maximale.
Mio caro amico, disse qui sono nato, e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire? È una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati. Mentre là in centro io respiro il cemento, ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così. Passano gli anni, ma otto son lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova.
La fiction et les personnages ne se trouvent pas que dans le roman, le théâtre et la nouvelle. Il y a des personnages dans la poésie, dans les films, dans les chansons, dans les tableaux, dans les jeux vidéo, dans les graffitis de murs.
personnage en personne parlera aussi bien du Thomas l'imposteur de Cocteau que du travesti de la chanson « Walk on the White Side » de Lou Reed, du débauché de la série de tableaux de Hogarth que du Frank Underwood de la série « House of Cards », de la Traviata qui s'est appelée Marguerite Gauthier dans la pièce d'Alexandre Dumas, que de James Bond qui ne se désigne Bond, James Bond que dans les films, de Mrs. Dalloway qui se prénomme Clarissa, de Robert de Saint-Loup, un de mes personnages de fiction préférés, avec le prince André, dont Tolstoï parlait tout à l'heure par ma bouche, de tant d'autres encore.
Повторись, по загинав коней прикажет, не счесть никак. Что-то въелся в ад прохожих, не лезь, дурак.
И тысячи четыре.
Пять, шибче, шибче, ждут цыгары, цыгарочки, котежи. Пей, полага, бей стаканы, вот это жизнь.
10 000, все.
Что ж, когда же ехать-то, ваше сиятельство?
La fiction est si séduisante qu'on finit par chercher à lui ressembler.
Да вот сейчас и ехать.
Quand les Grecs antiques ont inventé l'homme, l'homme en tant que personne individuelle contre les dieux, dans la tragédie, ils ont aussi créé une représentation nouvelle de cet homme par des statues aux proportions parfaites, enfin parfaites selon des critères parfaitement inventés. Ces statues sont des fictions. Elles ont imposé un corps idéal auquel le corps matériel de l'homme occidental s'est souvent efforcé de ressembler. Entre un corps musclé sorti d'un Club Med Gym et une statue de Praxitèle, il n'y a de différence que du marbre à la chair. Que ceux qui n'entretiennent pas leur corps ne se croient pas plus naturels ou plus authentiques. Ils ont simplement décidé de ressembler à des personnages de romans réalistes. Les personnes cherchent à devenir des personnages et, malgré le pessimisme de Flaubert dans Madame Bovary, c'est ce qui peut nous arriver de mieux. Et, comme il faut prendre garde à toute notion absolutiste et à l'illusion que l'artiste est un démiurge, comme il était à la mode de dire dans les années 70, je ne trouve pas mauvais de rappeler la phrase de Max Jacob dans Le Cornet à dés. Pour se venger de l'écrivain qui leur a donné la vie, les héros qu'il a créés lui cachent son porte-plume. C'était Personnage en personne, le 179e et dernier. Je remercie tout particulièrement Clotilde Pivin qui m'a accompagné depuis 2017 pour la réalisation de cette émission, la première jamais imaginée sur les personnages de fiction, si on me permet de le rappeler. C'est une grande professionnelle et qui, de plus, chose rare, a la culture de l'endroit où elle travaille. France Culture est aussi France Culture grâce à des personnes comme elle. Personnage en personne, les quadrithèmes et avant cela, secret professionnel. Voilà depuis 2011, 13 années, où j'ai essayé de parler de cet art de plus en plus rare à la radio, la littérature. Réalisation Clotilde Pivin, attaché d'émission Daphné Abgral, prise de son Bernard Laniel, recherche China, Hervé Evano.
Tous les espoirs me sont